Bonjour. Je suis réjoui de voir que l'église se remplit. Là, vous rigolez parce que vous n'étiez pas là dimanche passé. C'est pour ça. Dimanche passé, c'était un petit peu le dimanche vide de l'année. On aurait pu faire dans une petite salle, peut-être, hein, presque. C'était sympa. C'était vraiment sympa aussi. Mais c'est réjouissant. Moi, je me réjouis aussi, et je voulais le rappeler encore une fois ce matin, de voir cette louange. Et de voir ces jeunes qui font la louange. Et j'ai envie de vous dire aux jeunes, on a souvent dit les jeunes, c'est l'église de demain. Moi, je vous dis non, vous êtes l'église d'aujourd'hui. Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Alors, prenez votre place et n'hésitez pas à nous bousculer, à nous pousser, pour prendre la nôtre aussi. Mais c'est bien, on se réjouit en tout cas. Et moi, j'étais frappé encore ce matin de mots que j'ai retrouvés dans la louange et qui plaquaient sur ce que je... Sur ce que je voudrais vous apporter ce matin, et oui, c'est vraiment très curieux. Vous savez, il y a des raccourcis curieux dans la vie. On voit des images, des clins d'œil, inattendus souvent, voire amusants. Il y a deux semaines, tout début du mois, je travaillais un soir sur ce message, et je pensais que je devais le donner dimanche passé. Vous savez, des fois, on part sur un truc. Et puis, j'étais... dans mon bureau enfermé, puis il y a Lydie qui tape à la porte, puis qui dit « Mais tu te trompes, c'est pas dimanche prochain que tu as donné le message, c'est le dimanche d'après. » Ouais, je dis « Chouette, alors, on fait du temps de libre un petit peu, plus de temps pour préparer. » Voilà, c'était juste, donc je devais bien donner ce message aujourd'hui. Alors, j'avais prévu mon thème, le thème que j'avais prévu de développer de longue date, c'était l'avant-dernière phrase du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation ». Donc, dimanche passé, 13 août, je viens au culte, écouter le message que Raymond a donné, et puis, là, des amis nous invitent pour le repas de midi. Alors, petit clin d'œil, invitez-vous pour le repas de midi, c'est toujours sympa. Invitez-vous après le culte, c'est toujours sympa. Donc, invitation inopinée, nous passons à la boulangerie de Prévesin. Acheter un petit gâteau quand même, pas arriver les mains vides, acheter un petit gâteau pour le partager. Et là, avec dans ma tête mon message de « ne nous soumets pas à la tentation », voilà le carton d'emballage du gâteau. C'est quand même, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, succomber à la tentation. Si ça, c'est pas un clin d'œil, alors zut, là. J'y comprends plus rien du tout, moi. Donc voilà, clin d'œil sympathique. Et puis ce matin, par exemple, on a le mot « résister » qui revient dans un texte qui est lu et dans les chants qu'on chante. Voilà, on peut enlever ça, c'est pas ce qui est plus important. On arrive donc à la fin de notre prière du Notre Père avec ce verset. En trois temps, je ne sais pas comment je vais le découper encore, ça dépend comment ça me viendra. Mais en tout cas, avec ce verset, qui est en gros en trois temps, et puis tellement de variantes dans les traductions des textes qu'on a. Tellement de variantes dans les mots. Et ça m'a vraiment frappé, ces variantes dans les mots. La plus courante, ne nous soumet pas, je vous lis le verset en entier, hein, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et il y a encore une suite. Il y a des groupes d'églises ou des groupes de pensées qui ont coupé ce verset en deux, en trois. Et vous savez, on dit qu'il y a six éléments dans le Notre Père. Et il y a tout un groupe de pensées qui en a fait un septième encore, en découpant « ne soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal » pour faire qu'il y ait sept et que ça soit un chiffre parfait. Je ne sais pas si on va chercher jusque-là. Et peu importe, ça m'est absolument égal. Mais dans ce verset, nous avons aussi les traductions suivantes. Et c'est intéressant de bien réfléchir. Donc, ne nous soumets pas à la tentation. Autre traduction, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Nouvelle Bible, seconde. Bible français courant, ne nous expose pas à la tentation. Mais délivre-nous du mauvais. Avec un M majuscule. Parole de vie ne permet pas que nous soyons tentés. Voyez les nuances, les différences. Ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Parole vivante et semeur. Garde-nous de céder à la tentation. C'est pas la même chose. Garde-nous de céder à la tentation. Mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Semeur dit « délivre-nous du diable » directement. Et puis la Tob traduit « ne nous conduis pas dans la tentation ». C'est une prière à Dieu. C'est impressionnant, hein ? L'analyse grammaticale de cette phrase « ne nous soumets pas à la tentation » montre, vous savez, quand on fait à l'école, on fait verbe, complément, sujet, nous montre deux composants qui nous intéresseront plus particulièrement ce matin. Le verbe et son complément d'objet. On va commencer par le complément d'objet qui est lié au verbe, c'est-à-dire ce dont il est ici question, de quoi on parle. Et ce mot, c'est la tentation. On nous dit aussi l'épreuve. Alors, je vais tout de suite faire une aparté avec l'épreuve, dire que Dieu peut nous envoyer des épreuves. Mais je ne vais pas développer ça. Je vais rester sur le mot tentation. On peut aussi le traduire par épreuve. On en a déjà parlé, j'en parlerai peut-être dans un autre message. Quand on a ce mot tentation dans notre passage, si on cherche la racine grecque, on va trouver quelques mots différents avec aussi des connotations tout à fait différentes et qui nous surprennent. Comme le manquement, ne nous soumets pas au manquement. C'est un mot, dans le monde, on ne connaît pas ce manquement. C'est un mot vraiment dans notre patois à nous, ça. Le manquement, on connaît le manque dans le monde. Mais le manquement, c'est un mot qui est un vocabulaire chrétien. Mais dans cette tentation, un autre mot qui est issu de cette même racine, la séduction. Ne nous soumets pas à la séduction. Ça change un petit peu. Le péché, l'adversité, et des mots un peu plus forts, ou dans d'autres sens, l'affliction. L'affliction, c'est le fait d'être sous le poids de quelque chose. Le malheur, et encore plus fort, la rébellion, ou le mal. Tous ces mots sont de la même racine que ce mot qui est employé pour tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Dans notre analyse grammaticale, il reste le verbe. Le verbe qui est employé, ce verbe soumettre, on a vu qu'il était aussi pluriel, qu'il y avait un tas d'autres verbes. C'est le verbe phéro en grec. Et ce verbe, dans ce verbe, il y a une idée de mouvement, d'aller vers quelque chose. Soumettre, emmener vers. Vous voyez, c'est une progression. On est à un endroit et on glisse vers un autre endroit. On se déplace vers l'autre endroit, comme le vent va déplacer un petit peu les feuilles, ou comme le courant va déplacer des choses qui sont posées sur l'eau. Mais là aussi, il y a différentes traductions qui viennent de cette racine de phéro et qui ne résonnent pas du tout de la même façon au long des siècles, et notamment dans nos oreilles ou notre compréhension de chrétien du 21e siècle. Et il y a là une évolution dans la puissance de ce verbe, et on le trouve dans les différentes traductions. Dans l'ordre, peut-être de progression, j'ai essayé de les mettre de plus en plus forts, de plus en plus dangereux, je dirais, dans cette requête, on aurait « ne nous expose pas à la tentation », hein, être exposé à, comme être exposé au soleil, après tout on n'a qu'à se mettre à l'ombre, mais c'est la même chose, un petit peu. Un peu plus fort, ne permet pas la tentation, ah, là il y a quelque chose de plus fort qui vient de l'extérieur, encore. Encore plus fort, ne nous soumet pas à la tentation, là il y a un acte encore plus fort, nous soumettre à la tentation, nous forcer presque dedans, hein. Encore plus fort, ne nous permet pas de céder à la tentation. Ah, on est passé de l'autre côté, là. On a viré dans la tentation. Peut-être encore plus fort et encore plus ciblé, ne nous conduit pas vers la tentation. Qui est-ce qui va nous conduire à la tentation? Et puis, encore plus, moi je dirais, avec du peps, ne nous fait pas entrer dans la tentation. Faire entrer quelqu'un dans une pièce, ben, c'est faire entrer quelqu'un dans une pièce. Hein. Faire entrer toutes les affaires dans la valise des vacances. On y va, hein, jusqu'à ce qu'elle ferme. Faire entrer, il y a un gros passage qui est fort là. Voyez qu'on est loin de notre emballage cadeau. Notre emballage de gâteau qui, lui, est clair et net. Céder à la tentation. Punchlus, comme on dit en Suisse. Fini. Mais c'est une pub bien pensée et on y cède volontiers avec modération, ici. L'enjeu de notre texte est autrement plus vital, éternellement vital. Quelle est donc l'idée importante à retenir ici? Si on réfléchit un petit peu à notre vie, à nous ici, et à la vie du monde dans lequel nous vivons. Tout être de ce monde, je dis bien tout être de ce monde, homme ou femme, est à chaque instant soumis à des choix dans sa vie. Vous êtes soumis à des choix dans votre vie. Tous les gens sont soumis tous les jours, un nombre incalculable de fois, à des choix, ça fait des mots qui se... incalculable de fois à des choix de vie. On doit sans arrêt décider, à droite, à gauche. Je ne parle pas de vote, hein, mais entre autres, mais pour tout, à droite, à gauche. Sans arrêt, on doit décider et on doit assumer ses choix derrière. Si je fais ça, ça m'emmène là. Vous, on a des GPS maintenant. Hein. Le GPS, il est tellement malin que quand vous vous trompez, il va vous faire faire un tour et revenir sur le chemin que vous aviez prévu. Il ne vous dit pas « non, 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 fallait pas tourner ». Non, non, il vous dit « prochaine à gauche, prochaine à droite », etc. Mais nous, on est soumis à ces choix et on doit les assumer derrière. Ça veut dire que si on dit « je vais à Gex » et qu'on prend la route de Bellegarde, eh ben, on ne va pas se trouver à Gex. Si on avait allé chez le dentiste à Gex, on n'a pas rendez-vous chez le dentiste à Bellegarde. Il n'y aura pas de dentiste. Donc on doit assumer ces choix, quels qu'ils soient, tout au long de notre vie. Pas de problème pour le commun des mortels. Aucun problème. C'est la vie. Tout le monde vit avec ça. Et s'en accommode naturellement, sans aucun souci. Vous êtes d'accord? À peu près. Mais, quand je dis que tout le monde s'en accommode à peu près naturellement, mais tout le monde s'en accommode parce que, aussi, il ne se préoccupe pas de Dieu dans notre monde. En fait, la grande majorité des gens, de nos concitoyens, ont, un jour, fait le choix de ne pas choisir Dieu. Je vous le répète pour que vous compreniez bien. La plupart des gens de notre monde, sinon on serait 10 000 ce matin ici, la plupart des gens de notre monde ont fait un jour le choix de ne pas choisir Dieu, pour toutes sortes de raisons qui sont les leurs. Il y a ceux qui refusent de croire en Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Ok. Il y a ceux qui sont insouciants. Oh, alors là, m'intéresse pas du tout. Hein. Je suis pas du tout concerné par ça. Non, mais c'est quoi cette idée vieillotte? Ça vient d'où? Avec encore de l'ironie, mais attendez, c'est bon pour les bigots. Ouais. Non, mais qu'est-ce que je vais faire à l'église, moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, quoi. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Attendez, j'ai quand pas le temps d'aller à l'église, j'ai foot, j'ai, comment on dit, j'ai poney club, non? Aquaponey. J'ai aquaponey, voilà. Langage Jones, hein. J'ai aquaponey, je peux pas. Bon, voilà, j'ai autre chose à faire. Écoute, reviens un autre jour, peut-être, on verra, si un jour j'ai le temps, oui. Donc, la plupart des gens ont évacué Dieu, je suis déjà occupé comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'aille encore à l'église? Donc, je vis comme ça avec mes choix, pas de problème. En fait, si on veut être honnête, il y a très peu de personnes dans nos sociétés, je dis occidentales, je ne parle pas peut-être d'autres parties du globe, mais dans nos sociétés occidentales, il y a très peu de personnes qui n'ont aucune notion de Dieu ou de l'Église, qui sont absolument, qui n'ont jamais entendu ce mot, par exemple, ou qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Preuve en est que pour les grands moments de l'existence, dans notre monde, hein, je parle ici, pour les grands moments de l'existence que sont la naissance, le mariage ou la mort, la plupart des gens demandent une cérémonie religieuse. S'ils n'avaient pas de notion de Dieu, qu'est-ce qu'ils iraient demander une cérémonie religieuse ? Donc la plupart des gens ont une idée de Dieu ou de l'Église qui représente Dieu. Je dis bien une idée, donc ils savent. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui l'a fait dans le cœur de l'homme. On peut quand même le croire aussi. Alors, la suite du verset est intéressante. « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc là, on sent déjà aussi ce schisme avec l'homme. C'est l'idée de Pascal, Blaise Pascal. C'est l'idée qu'il développe dans ses pensées. Il y a dans chaque personne un vide en forme de Dieu. C'est intéressant cette pensée. Un vide en forme de Dieu. Chaque personne, chaque être humain, je ne parle pas des chrétiens ici. Chaque être humain a un vide dans son âme, au fond de lui, dans son esprit ou dans sa vie, qui ne peut être rempli que par Dieu. Que par Dieu. C'est pour ça qu'il y a une quête continuelle et qu'on recherche toujours jusqu'à ce qu'on ait trouvé Dieu. Alors, si dès le début on l'évacue, voilà, c'est un choix qui est fait, on en assume aussi les conséquences. Il s'agit d'un besoin inné du cœur humain, de quelque chose d'extérieur à lui-même, de transcendant, d'autre. Alors les gens vous diront, oui, je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus, oui, je crois qu'il y a Dieu, mais ça va pas plus loin. Il ne se préoccupe pas de savoir s'il y a Dieu, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il est là, il dit, puis c'est quoi, mais il fait quoi ? Rien du tout. Voilà notre monde païen. La différence pour nous chrétiens, on va revenir vers notre texte, la différence pour nous chrétiens, c'est que nous avons, nous, ouvertement un jour, fait un choix, celui de laisser entrer Dieu dans notre vie, de lui en laisser les rênes, mais aussi d'en assumer ce choix, tous les jours, jour après jour. Mais nous vivons dans le même monde, dans ce monde païen. Nous vivons dans ce même monde et nous sommes donc confrontés au même choix tous les jours. On ne peut pas dire qu'il y a des choix pour les chrétiens et des choix pour les non-chrétiens. Non. Le choix d'aller sur Gex ou sur Bellegarde, il est le même. Quand vous prenez votre voiture, au bout du chemin, vous tournez à gauche ou vous tournez à droite. Que vous soyez chrétien ou non. Autrement, vous allez dans le mur en face. Donc les choix sont les mêmes pour nous. Nous vivons donc dans ce même monde et sommes confrontés au même choix chaque jour. Mais nous devons prioritairement assumer notre choix de Dieu. Notre choix de Dieu d'abord dans les choix que nous faisons tous les jours. D'où le dilemme que notre texte met en exergue. Dans chaque choix qui s'offre à moi dans ma vie, chaque choix de tous les jours, choix que le monde actuel me propose et qui sont les mêmes pour tous, est-ce qu'il y a une option qui correspond à ce que Dieu souhaite pour moi ou à ce que Dieu préconise ? Quelle est l'option que Dieu préconise ? Vers où Dieu veut que j'aille ? Autrement exprimé, la vie m'offre chaque jour un tas de chemins, de direction, de possibilités, de projets, de propositions d'engagement, comme autant de routes vers lesquelles je peux aller ou ne pas aller, et autant de chemins sur lesquels je vais pouvoir marcher ou je ne vais pas pouvoir marcher. Alors, toutes les fois quand il y a ce choix, ce carrefour, ces panneaux indicateurs, est-ce que ces routes sont compatibles ou vont-elles dans le sens de celles que j'ai choisies initialement en décidant de marcher sur les traces du Christ? On est à un moment où on doit choisir quel chemin me tente le plus, et en tout notre mot tentation, vers quel chemin je vais être tenté d'aller. C'est le bon chemin ou c'est pas le bon chemin? Et c'est pas toujours si évident que ça. Il y avait ici dans l'église pendant des décennies une vieille dame, je ne sais pas son nom, mais vous allez la reconnaître, qui s'asseyait toujours à la même place, à la place où est Nélie, là, et qui disait tout le temps, qu'est-ce que ferait Dieu, Jésus à ma place? Quand elle avait des questions, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Elle a vécu très vieux. Et petite anecdote, on allait jouer au Scrabble avec elle. Elle avait 85 ans, presque 85 et 90 ans, je crois. On allait jouer au Scrabble avec elle et un jour, je mets le mot sénilité. Elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, t'en fais pas, c'est pas pour toi. Petite anecdote. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes des pécheurs rachetés. Et nous sommes avant tout des pécheurs rachetés. Notre nature initiale, notre nature profonde, est par essence même une nature pécheresse. Et tous ces chemins qui s'offrent à moi chaque jour tout au long de ma vie sont autant d'occasions de prendre une mauvaise direction, de suivre un chemin qui n'honore pas Dieu. Je suis toujours tenté de prendre ce chemin plutôt que celui-là. Tous ces choix répétés à faire jour après jour sont en fait des tentations de tout ordre pour nous. Et c'est exactement ce que nous dit notre texte, qui sous-entend clairement que de nous-mêmes, nous sommes si faibles que sans l'aide de Dieu, nous ne saurions faire les bons choix et subsister un instant face à toutes ces tentations. C'est pour ça que la Bible nous dit, Matthieu 26, on a lu Matthieu 26 tout à l'heure, mais un autre verset, 41, « Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation. » Vous avez vu comme c'est différent avec le texte, « Ne nous fait pas entrer. » Et là, Dieu nous dit, « Veillez et priez pour ne pas entrer. » C'est bien nous qui entrons, pour ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Les tentations. La tentation est donc présente et monnaie courante, journalière, dans notre vie de chrétien. Elle est là. La Bible affirme que la tentation ne vient pas de Dieu, que Dieu ne tente personne. Elle vient de celui que la parole appelle, et on l'a lu, le tentateur, et de son pouvoir, notre ennemi Satan. Jacques 1, verset 13. Que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Jacques 1, 13. Rappelez-vous, Jacques 1, 13. On va lire la suite de Jacques 1, 13 après. Le texte de notre prière n'est pas une demande à Dieu d'évacuer toute tentation, ou d'éloigner de nous toute tentation, ou de nous faire vivre dans un monde aseptisé. C'est ce que font les moines, en fait. Et encore, je suis sûr que les moines, même dans une abbaye, dans le silence, ils ont autant de tentations que peut-être nous, dans notre monde. Non, Dieu ne veut pas un monde aseptisé où nous ne serions jamais tentés. Sinon, il l'aurait créé, ce monde. Ce que notre prière demande ici à Dieu, c'est seulement « Veuille donc nous soutenir et nous fortifier par ta puissance, par ton esprit, pour que nous puissions résister, on retrouve notre mot « résister » de ce matin, pour que nous puissions résister fermement et ne pas succomber ou ne pas céder dans ce combat spirituel qui nous est proposé tous les jours. Lors de notre conversion, après avoir reçu le pardon de notre péché, qu'est-ce qu'on craint le plus? Eh bien, c'est d'y retomber. D'y retomber. De là, cette demande à Dieu, non pas « ne nous tente pas », rappelons-le, il ne tente personne intérieurement, mais seulement « ne nous laisse pas chuter dans la tentation ». Préserve-nous de ça, s'il te plaît. C'est une prière qu'on lui fait. Et on retrouve ici nos verbes dans ces différentes traductions. Seigneur, s'il te plaît, permets qu'on ne soit pas exposé à une tentation trop forte. Ne permets pas que nous succombions dans cette tentation. Curieux de dire, ne nous soumets pas à la tentation. Là, on a à réfléchir, tiens, c'est pas lui qui me soumet. C'est moi qui me soumets directement parce que je suis sous l'emprise de l'ennemi, du tentateur. Ne me permets pas, Seigneur, s'il te plaît, que je cède à la tentation. Donne-moi les moyens de ne pas y céder. Que le diable ne me conduise pas à la tentation. Que le diable ne me fasse pas entrer dans la tentation. Ne nous laisse pas céder à la tentation alors même que nous y sommes continuellement et quotidiennement confrontés. On doit avoir ça dans la tête. On est confronté à cette tentation tous les jours. Dieu seul peut nous aider. Ne nous y amène pas, c'est-à-dire, puisque tous les événements de notre vie sont dans ta main, puisque nous te faisons confiance, ne permet pas que nous soyons placés au long de notre vie dans des situations tellement difficiles pour nous que nous y trouvions toutes les fois des occasions de chute. On parle souvent d'être une occasion de chute pour son prochain, mais là, c'est des occasions de chute pour nous. Quels sont les ennemis de nos âmes? Le diable, ennemi de nos âmes. Le monde, truffé de pièges. Et nous-mêmes, la chair, nous-mêmes. Ces trois éléments ne cessent de nous assaillir par leurs tentations. 1 Jean 2,16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde et du prince de ce monde, le tentateur. Et l'apôtre Jacques continue, on va lire la suite du texte, donc Jacques 1,13, on l'a lu, que personne devant tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. La suite c'est « lorsque nous sommes sans tentés et » Écoutez ce passage, il est merveilleux. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Démonstration mathématique. Il n'y a pas plus mathématique, rationnel. 1. Devant chaque choix, nos mauvais désirs, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous. Nous portons en nous de mauvais désirs parce que nous sommes des pécheurs, rachetés, mais des pécheurs. Et que le tentateur est toujours là pour essayer de nous dévorer. On l'a lu ce matin ce texte. Le diable qui rôde et qui veut nous dévorer, comme un lion rugissant. Je ne sais pas si on ne va pas se tirer en courant s'il y a un lion rugissant tout d'un coup qui rentre dans la salle. Ben, le diable, il est là comme ça. Comme un lion rugissant. Nos mauvais désirs de pécheurs, la chair, ce qu'on appelle la chair pour nous dans notre jargon chrétien, la chair, nos convoitises, nos pulsions, on dit ça maintenant, nos pulsions, nous séduisent, nous laissons séduire. Ne permet pas, c'est la prière de notre prière, ne permet pas que nous soyons tentés, que nous soyons laissés séduits par notre chair, notre tentation. Il nous attire, puis ce mauvais désir donne naissance au péché. Donne naissance au péché. On est passé de l'état de désir à l'état de ferment. Si vous achetez des fraises, vous les mettez dans votre frigo, s'il y en a une de pourrie, ça va se diffuser sur toutes. Voilà, le ferment, ce ferment. Il y a ce coin qui est pourri et qui va continuer à faire pourrir. Ce ferment a créé la convoitise et va activer le péché. Et là, on a cédé à la tentation. Là, on a cédé. Et la suite de la tentation, c'est la mort, parce qu'on a coupé le chemin avec Dieu. On a pris l'autre chemin. Je suis parti sur Bellegarde. Si vous habitez Bellegarde, ce n'est pas grave. Je suis parti sur Bellegarde au lieu de partir sur Gex. J'ai fait le mauvais choix à l'aiguillage là. Et c'est la route de la mort, directement. Enfin, vous pouvez prendre la route pour aller après. Pas de souci. Mais on a coupé le chemin avec Dieu. On a pris le mauvais chemin. Ce n'est pas le chemin que Dieu voulait. Ces situations... Alors, je relis ce truc de Jacques, parce qu'il est vraiment important à se mettre dans la tête. Jacques 1,13. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il ne peut pas, il ne supporte pas le mot mal ou de voir le mal. Il ne le conçoit pas. Donc, ça lui est étranger. Et donc, il ne tente personne lui-même. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ce n'est pas la faute de Dieu ni des autres. C'est nous. Soumis au tentateur. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, ça se fait à notre insu. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Important, lisez-le cette semaine. Ces situations, ces épreuves sont presque inévitables dans ce monde. Et c'est pour cela que notre prière s'appuie sur des promesses divines. 1 Corinthiens 10,13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. C'est fort cette phrase. Vous avez été tenté, mais c'est normal, c'est ce qui se présente normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. En qui je mets ma confiance? En qui je mets mes forces? Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, au moment où je suis devant les deux panneaux et je choisis, à ce moment-là, il vous donnera la force de la supporter, la tentation, et le moyen d'en sortir. C'est-à-dire qu'il nous dira, c'est la route de gauche ou c'est la route de droite. Simplement. Certes, la peinture faite ici de notre vie est un petit peu sombre, quand même. Mais Dieu utilise ce texte pour nous enseigner. On dit dans la Bible, nous corriger, nous reprendre. Ce n'est pas toujours nous corriger avec un fouet ou un bâton, mais c'est nous corriger en disant, attention, là, ce n'est pas la route. Je corrige ton GPS, là. Ce n'est pas la bonne route. Mais surtout, nous inviter, nous encourager à lui demander de nous délivrer quotidiennement de ce qui est le mal qui nous entraîne, en fait, de ce mauvais côté, et de celui qui nous procure ce mal. Et cela, en nous posant, nous, à chaque choix de notre vie, les vraies questions. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Quelle est notre part? Quelle est la part de l'ennemi? On sait maintenant qui est l'ennemi, le tentateur. Il y a le tentateur, il y a Dieu, je suis là au milieu. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité? Dans mon choix, dans mes choix. Comment je me comporte? J'accepte tout ou à un moment je résiste et je fais un autre choix. Paul donne deux pistes qui me paraissent ici essentielles et sont des panneaux indicateurs pratiques importants au moment des choix de chemin à faire pour tout chrétien. Et je terminerai avec cela. Deux versets courts. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est un verset qui peut passer comme ça. Mais, lisons-le, tout est permis. Ça veut dire, j'ai devant moi un tas de choses que je peux faire. Que je peux faire, après tout. Ce matin, je peux venir au culte, je peux aussi regarder les résumés du foot à la télé. Je peux le faire. Tout m'est permis. Ok ? Dans la vie, j'ai un tas de choses qui sont devant mes yeux, qui me sont permises. Mais tout n'est pas utile. Mais utile à quoi ? Utile dans le sens qui apporte quelque chose dans ma relation avec Dieu. Alors, est-ce que le choix que je vais faire m'apporte quelque chose dans la relation avec Dieu ou est neutre ou va contre cette relation avec Dieu ? Ben, si c'est pour le choix de regarder le foot ou de venir à l'église, je me prive d'entendre le message ou de partager avec mes frères et sœurs ou de recevoir dans ce temps de louange quelque chose ou entendre la parole de Dieu. Mais ça va plus loin, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et il ne faut pas enlever cette deuxième partie de ce verset. Tout n'édifie pas, tout ne me construit pas dans ma relation avec Dieu. Alors, à chaque choix, est-ce que c'est permis, autorisé ? Alors, si c'est tuer ou pas tuer, ça va être plus facile. Hein ? Mais il y a d'autres choix qui sont plus limites des fois. Mais est-ce que ça édifie ? Ben, tuer quelqu'un, ça édifie pas, ça c'est sûr. Hein. Ça détruit d'ailleurs, directement. Mais le choix que je vais faire, les deux panneaux indicateurs, est-ce qu'ils vont m'édifier, m'apporter quelque chose, m'enrichir ? Peut-être simplement le fait que je vais rencontrer quelqu'un qui lui va m'apporter quelque chose, ce qu'on appelle la communion, simplement en venant au culte par exemple. Donc tout m'est permis, tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Essayez de voir ce qu'on peut mettre derrière ce mot édifier. Et puis, un conseil de Paul aux Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Ça veut dire, attention, vous êtes à un endroit où vous avez un choix à faire, posez-vous. On passe toujours le temps, hein, mais posez-vous et réfléchissez, examinez et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi ? Mais tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est la fin de notre texte de Jacques, on va le lire après. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc si j'arrive à voir ce qui est bon, pour moi, dans ce que c'est permis, autorisé, possible, envisageable, utile et qui m'édifie, c'est Dieu qui le veut. C'est bon. Et donc c'est le chemin que je vais suivre. Et l'apôtre Jacques continue son texte en disant « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point. » Jacques 1, 16. « Mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait, ce qui est bon, tout cadeau de valeur, tout don parfait vient d'en haut, du Père de toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À lui seul, toute la gloire. Amen. » Je vous invite à un petit temps de réflexion. Et si un ou deux veulent prier, qu'ils le fassent tout à fait librement. Notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous tous les jours. Tu sais que ce monde est mauvais et tu nous as demandé de vivre dans ce monde pour être aussi tes témoins. Et dans ce monde, nous avons fait ce choix de te suivre, de suivre ton chemin pas à pas. Seigneur, en lisant ce texte ce matin, nous comprenons que tous les jours de notre vie, là où tu nous as placés, nous sommes soumis à un tas de tentations, de risques, de nous égarer. Et on veut te prier ce matin, cette phrase, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous comptons sur tes forces, nous comptons sur ton secours jour après jour. Nous avons besoin de toi et nous réclamons ta présence dans chacune de nos vies, pour nous permettre de ne pas prendre le mauvais chemin, de ne pas être dans cette chute qui nous éloigne de toi, qui nous égare de toi. Merci de nous aider à voir ce qui est ton chemin, ce qui est le chemin de la vie. On veut te remercier parce que par la prière, Seigneur, on peut te demander cela et on a la certitude que tu nous aideras. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te remercions de nous enseigner et de nous apporter des réponses à nos questions les plus intimes, les plus profondes, les plus délicates. Aide-nous, Seigneur, à regarder quelles sont nos responsabilités et qu'est-ce que toi tu proposes en retour pour nos doutes. Merci, Père, d'être avec nous tous les jours. Tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur, nous comptons sur toi jusqu'à ton retour. Sois béni, Père, au nom de Jésus, ton Fils, que tu as envoyé sur la terre pour nous apporter cette bonne nouvelle. Nous te prions. Amen.
Première annonce à partager ce matin, c'est la naissance mardi matin, très tôt, 2h20 du matin, de Soa. Soa Javois chez Philippe et Aurélie. Alors Soa pesait 3 kg et 20 grammes lorsqu'elle est née. Tout s'est bien passé, on est content pour eux. Raymond, tu pourras leur transmettre notre joie qu'on partage aussi avec eux. C'est toujours les vacances, donc il n'y a pas beaucoup d'activités dans la semaine. La prochaine activité, c'est donc notre culte dimanche prochain, culte qui aura lieu à la Lécherolle. Donc le culte aura lieu à 11h. Alors on vous propose un rendez-vous entre 10h et 10h30 sur le parking de la Vatée. C'est donc les pistes de ski de fond qui sont quelques kilomètres après le col de la Faucille sur la droite. Et puis après le culte, on va partager un pique-nique et une après-midi conviviale. Des journées généralement super sympathiques. Par contre, il n'y aura pas de culte ici. Donc c'est important que personne ne se retrouve derrière une porte fermée. Le mardi d'après, le 29, il y aura l'étude biblique des aînés à 14h30. Et puis, les 23 et 24 septembre, il y aura donc le week-end d'église à Champfleury. Alors, c'est important de s'inscrire. Donc, il y a déjà le tableau d'inscription au fond de la salle. Vous verrez, il y a plusieurs possibilités. Il y a possibilité d'arriver pour prendre le repas de midi ou bien d'arriver dans l'après-midi et de commencer le week-end par le goûter puis le repas du soir. Donc inscrivez-vous déjà maintenant et faites bien attention de vous inscrire aux bons endroits. Puisqu'on en est aux inscriptions, je vous invite aussi à vous inscrire pour le thé café, puisque à partir de dans 15 jours, les inscriptions sont vides. Voilà. On a le plaisir d'avoir Brian et Hélène parmi nous ce matin. Je crois que votre départ approche. Est-ce que tu voudrais, Brian, dire quelques mots? Non, pas forcément. En tout cas, on se réjouit que vous ayez pu venir ce matin, que Hélène va mieux. On continue de penser à vous, que Dieu vous accompagne chaque jour, qu'il vous précède aussi et qu'il vous bénisse aussi maintenant. Annelise est toujours à la clinique Bois-Bougie à Nyon. Annelise va bien. Les traitements lui font du bien, les traitements au laser lui font du bien, ses plaies vont mieux. Pour le coup, vous connaissez Annelise, le moral, pouf, il remonte. Elle est super en forme, mais ça n'empêche pas que vous pouvez toujours la visiter. Donc c'est la dernière semaine puisqu'elle va quitter Bois-Bougie à Nyon. Donc voilà, on vous recommande de lui téléphoner. Il y a le numéro de téléphone est sur le site de l'église. Sinon, vous pouvez me le demander. Continuons de penser aux autres personnes qui souffrent, qui vivent des temps pas faciles. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets d'un psaume, le psaume 103, les versets 19 et 22. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.